Frères et sœurs, bienvenue dans votre Église. Que ce moment de culte puisse vous nourrir et vous aider dans votre semaine. Nous bénissons notre Dieu qui nous accueille dans sa maison. Et je vous invite à vous lever. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. En elle est la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole habite parmi nous. Ceux et celles qui la reçoivent deviennent enfants de Dieu. Que la grâce et la paix soient sur chacun de nous. Et nous louons ensemble notre Dieu. Sur votre feuille de culte, le premier texte, la louange. Si haut que soit l'Éternel, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Quand nous marchons au milieu des angoisses, tu nous fais revivre. C'est ta droite qui nous rend vainqueurs. L'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Et nous poursuivons notre louange par le chant du psaume 130, page 145 dans vos recueils, les trois premières strophes. Page 145, psaume 130. Les trois premières strophes. Thank you. écouter la prière de conversion.
Mon Dieu, ta parole s'adresse à moi et tu t'adresses à chacun de nous avec une mélodie aimante depuis les temps anciens. Et si souvent, nous ne l'entendons pas, tu offres une eau claire pour étancher ma soif, pour calmer notre soif à tous. Et si souvent, nous ne buvons pas à ta source, nous passons à côté sans la voir. Tu prends soin de moi, tu prends soin de chacun de nous, et nous passons auprès de celui qui demande de l'aide sans l'entendre. Viens toi-même retrouver en nous ce qui s'est perdu. Viens au secours de notre faiblesse, calmer nos peurs et nos souffrances. Merci pour ta présence qui exauce notre prière. Amen. Et nous chantons au chant 4903, la page 776, la strophe 1. Page 776, 4903, la strophe 1. Ézéchiel 37, versets 12 à 14, l'annonce du pardon. Parle donc en prophète, révèle-leur ce que je leur déclare, moi, le Seigneur Dieu. J'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, vous, mon peuple. Et je vous ramènerai en Israël, votre terre. Vous saurez ainsi que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai remonter. Quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous installerai à nouveau sur votre terre. Oui, vous saurez que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Et je vous invite à vous relever pour chanter la strophe 2 de ce même chant 49-03.
Thank you. volonté de Dieu. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Le Christ est en vous. Votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Je vous invite à vous rasseoir afin de chanter dans le chant 49.3, la strophe 3, page 776. La manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera comme ces 10 vierges qui sortirent munies de leurs lampes pour aller au devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Celles qui étaient avisées répondirent, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La sentence conclusive de cette parabole résonne comme un écho à ce qui la précède plus haut dans le texte. On peut y voir la réponse, ou peut-être la forme de non-réponse, de Jésus à ses disciples. À ses disciples qui lui demandaient au chapitre précédent, quand arriveront les signes de la venue du Fils de l'homme et de la fin du monde? Cette question ouvre alors une série de paraboles par laquelle Jésus illustre l'arrivée des signes. C'est la parabole du figuier qui annonce la nouvelle saison. Mais surtout pour insister sur la dimension fondamentalement inconnue de cette heure tant attendue, mais véritablement connue de Dieu seul. Et notre parabole se trouve ainsi entre deux autres qui mettent en avant des figures masculines, avec d'abord un parallèle entre deux serviteurs, un bon et un méchant, qui agissent de la sorte dans l'attente du retour de leur maître, et puis après notre parabole, encore des serviteurs qui reçoivent de leur maître une certaine somme à gérer et qui sont jugés en fonction de leur gestion à son retour. Au milieu donc, cette histoire de figure féminine, cette fois-ci, encore un parallèle. Dans un groupe de vierges, la moitié est qualifiée de folle, on pourrait aussi dire sotte. L'autre moitié est avisée, ou encore sensée, et bien souvent on les appelle aussi sages. Nous reviendrons sur ce problème de qualification. Alors, tout de suite, un tel enchaînement et un tel enchâssement des paraboles nous pousserait à y voir dans chacune la même logique sous-jacente. L'opposition entre une attitude positive et l'autre négative, bon serviteur, méchant serviteur, vierge folle, vierge sage. Et pourquoi pas aussi la même leçon sur comment bien gérer ce qui est en notre possession, tout cela dans la perspective d'un jugement qui approche. Mais si Jésus prend bien la peine de multiplier les exemples, les paraboles, pour essayer de faire comprendre ou plus précisément ce qu'il y a de difficile à comprendre dans cette question de la venue du Fils de l'homme et de la fin des temps, je pense qu'il faut mettre à son crédit que c'est plutôt pour essayer d'en faire saisir toutes les dimensions spécifiques, uniques, et pas seulement pour marteler la même leçon à chaque fois, à savoir, tenez-vous prêts, un jugement va venir, il y aura des bons et des méchants, et ils seront traités comme tels. Alors, confrontons-nous un peu au texte et plongeons-nous d'abord dans cette scène que Jésus nous présente. Une scène qui, comme les autres, et c'est là tout l'art et la force des paraboles, est tirée de la vie quotidienne des gens de l'époque. Mais la distance dans le temps nécessite qu'on rappelle ici quelques modalités. En ce qui nous concerne, le mariage, ses festivités, plus précisément ce qui précède la noce. Au jour des noces, le marié venait, souvent à une heure du soir, comme ici, chercher son épouse dans la maison familiale. À partir de là, les demoiselles, les jeunes filles, les vierges de notre parabole, mais dans la mentalité de l'époque, vierge et jeune fille, c'est équivalent. En fait, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les demoiselles d'honneur. À partir de là, elles vont former l'escorte pour l'époux. Mais ce qui frappe immédiatement dans la façon que Jésus a de raconter cette scène, c'est le dénuement dans le détail. Pour centrer l'essentiel sur ces jeunes filles, qui sont vraiment les personnages principaux. Parce que de la mariée, en réalité, il n'est pas question, ni de la maison d'où l'on part, ni le lieu où l'on arrive. Le trajet entre les deux est comme effacé, ni vraiment décrit. On est placé avant tout et tout de suite dans l'instant de l'attente, parmi ces jeunes filles. Prêt à participer à un événement qui nous concerne, bien sûr, mais qui en quelque sorte aussi nous dépasse. Ce n'est pas le mariage qui est la figure du royaume ici. C'est l'accompagnement des vierges au mariage. Leur bonheur sera de participer au bonheur d'autrui. Et c'est pourquoi ici se joue, bien entendu, et d'après le contexte, comme on l'a vu, toute l'explication sur la fin des temps, la venue du Fils de l'homme. Mais plus généralement, et du fait de cette urgence mise dans l'instant de l'attente et de la mise en avant de ces vierges qui vont former le cortège comme principal acteur du récit, je pense que se joue surtout la question de la venue de Dieu dans notre vie et de la venue de l'époux dans notre cœur en cette vie. Dans l'événement du mariage où nous sommes conviés et vers lequel nous mettons en chemin, c'est bien dès cette attente et sur ce chemin que se joue déjà quelque chose de l'ordre du royaume. Et alors, où nous situons-nous dans ce tableau ? Assez spontanément, nous serions amenés à vouloir nous identifier à l'une ou l'autre moitié du groupe, des jeunes filles. Sommes-nous de ces avisées, de ces sensées, on peut encore traduire ? Oui, celles qui ont le bon sens de se munir de beaucoup d'huile, aliment de la flamme, symbole, s'il en est, de la foi qui les anime, leur permet de garder la vigile pendant toute la nuit. C'est bien beau, mais à y regarder de près, et si on prend cette interprétation au sérieux, l'huile, c'est la foi, les vierges sensées, ce sont donc les plus fidèles. Si on la prend au sérieux, on est obligé de constater que leur bon sens ne s'exprime pas de la façon qui paraîtrait la plus charitable ou en adéquation avec cette quantité de foi Et il serait difficile d'aller à les qualifier de sages. N'a-t-il pas une étrange avarice à ce que l'huile de la foi ne soit partagée qu'entre ceux qui la possèdent déjà ? Comment ne pas vouloir la transmettre à ceux qui en manquent ? Et donc, d'après cette logique, dans la parabole, la figure de ceux qui en manquent, c'est l'autre moitié du groupe. Si ce n'est la foi elle-même, cet élément intime dont on peut témoigner sans proprement parler le donner à autrui, du moins, le partage de l'huile, ce serait susciter pour les autres de l'espérance, pour ceux qui défaillent. Oui, partager avec celles-là, ces autres vierges, qu'on peut dire sottes, mais qui, après tout, ont fait preuve d'une certaine prudence, elles aussi. Elles ont pris ce qu'il fallait, certes, juste ce qu'il fallait, mais l'époux n'aurait pas tardé, elles entraient dans la noce. Elles se sont trouvées face à un imprévu, face auquel elles ne manquent pas de ressources, elles aussi. Après leur demande, elles ne restent pas là, elles se démènent pour aller acheter l'huile, elles vont donner de leurs biens et tenter de rejoindre le cortège. Enfin, notons qu'il aurait demandé à toutes de veiller et toutes s'assoupir et s'endormir. Les sensées, aussi bien que les sottes, si bien que le cri doit retentir une seconde fois. C'est assez amusant de voir qu'on les enjoint encore à sortir, comme si cela n'avait pas suffi la première fois. Alors, vierge sotte, vierge sage. Pour mieux éclaircir tout cela, il faudrait peut-être tout simplement, si on ose dire, prendre au mot ce que nous dit Jésus. Le royaume des cieux n'est pas semblable à des vierges sages, sensées ou bien avisées uniquement, ni à l'époux, ni à la noce, on l'a vu. Il est semblable, pour commencer, à 10 vierges qui sortirent, qui osèrent aller à la rencontre de l'époux. Sortir jusqu'au cœur de la nuit pour se joindre à lui et aller à la noce. Parfois, comme elle, au cœur de la nuit du monde, nous sentons que le moment nous échappe et que tarde la réponse de Dieu à nos prières. Si bien que le sentiment de sa présence, comme les lampes, s'éteint. Mais avant même le mariage et la fête, avant même la sûreté de la porte refermée derrière nous, le royaume commence bien là où l'on se tient en attente, y compris dans les faiblesses, dans les assoupissements. Il est dans les cris répétés de Dieu à notre rencontre pour nous en tirer, nous incitant à sortir, sortir au dehors, sortir encore, un peu de nous-mêmes. Il est encore dans les démarches parfois agitées et haletantes pour aller acquérir l'huile qui allégera nos veilles et nourrira notre flamme. Bien sûr, oui, c'est sur ces chemins de nuit où nous pouvons sans doute nous perdre, où nous pourrions, il est vrai, nous attarder. Ce serait sans doute là la vraie sottise, s'il faut quand même dresser une distinction que reflète la division du groupe des vierges. Et ce n'est donc pas tant pour celles qui n'ont pu entrer à la fin une condamnation de leur enthousiasme initial, où tout était encore possible, où même une certaine folie, si on la qualifie ainsi, n'était pas à écarter pour aller plein de confiance vers celui qu'on attend, sans même calculer toutes les réserves au départ. Et ce n'est pas moins une expression de foi sincère, d'un même élan de cœur, dont on peut dire qu'elle le partage avec leurs consœurs du cortège, les dites sensées ou sages, mais dont le terme grec dans le texte renvoie en fait aussi à la dimension du cœur et du souffle, un siège de l'intelligence et des sentiments, et pas seulement d'une bonne raison bien gardée, un élan du cœur qui les pousse à suivre l'époux. Là, on peut bien dire qu'elle possède une sagesse qui dépasse la bonne raison qui semblait les déterminer. Mais en vérité, sagesse et folie s'épousent ici. Les frontières des deux groupes se brouillent dans un même élan. Les jeunes filles ne sont d'ailleurs plus, vers la fin du texte, enfermées dans ces qualificatifs. Il y a d'un côté seulement celles qui sont prêtes, et les autres qui, oui, malheureusement, arrivent plus tard. Car, encore une fois, s'il y a mise en garde contre une forme de sottise, c'est finalement plutôt celle qui nous ralentit dans cette course enflammée, et le terme grec désignant justement les folles ou les sottes, a aussi en fait avant tout un sens de lenteur. Plus encore, je crois que c'est pointer ici l'affaiblissement qui naît du découragement, à vouloir nous reposer uniquement sur nos propres efforts et pris dans les tractations de nos vies, autant d'incertitudes, de reculs et de va-et-vient dans la recherche de la présence de Dieu, comme peut-être certaines de ces jeunes filles se sont trop attardés dans l'achat de l'huile. Voilà que nous risquons de ne plus faire place à l'attente et à l'écoute de cet appel incessant de Dieu. Et nous enfermant dans le dédale, les yeux rivés uniquement sur le chemin obscur, nous perdons de vue ce à quoi notre cœur aspire. Et alors, oui, on rate le coche. Et en effet, c'est un peu sot, c'est un peu bête, et c'est même fort dommage. Car que l'on soit parti avec une réserve importante de foi dans notre cœur, ou qu'il nous faille passer par des détours, il importe surtout de ne pas perdre la destinée de vue, de sorte que par la foi, comme le dit l'apôtre, nous possédions déjà ce que nous espérons. Et de savoir qu'en toute circonstance, dans la joie sereine d'une foi sûre d'elle, ou dans les agitations du doute, c'est Dieu qui, le premier, vient à notre rencontre, qui nous donne de son esprit dans notre cœur, dans cette région du souffle et de l'intelligence. Quand nous avons le souffle court dans cette course sur notre route, et dans les fatigues de nos veilles, où le matin semble être encore pour dans des siècles. Cet esprit qui intercède pour nous par des gémissements inexprimables, quand les mots viennent à manquer, même pour dire nos prières. Oui, dans nos veilles, dans nos soupirs, dans les éclaircies au cœur de la nuit, nous vivons alors l'instant et l'heure. Nous entrons dès maintenant dans l'inconnu du jour et de l'heure. Là où se révèle la mystérieuse familiarité d'un Dieu toujours autre, qui a pris les traits d'un visage humain, qui s'est un jour assis, fatigué, au bord d'un puits, et qui s'est aussi réjoui avec des invités à un repas de noces. Il nous accompagne sur le chemin de la fête. Nous pouvons le voir dans le visage des autres qui forment le cortège avec nous. Ceux qui étaient prêts, ceux qui sont arrivés plus tard, ceux qui se sont endormis, et se sont réveillés. Le royaume des cieux est là et jusqu'au sein de la noce, où la joie de chacun est la joie de tous, où le regard de chacun envers tous portera d'autant plus d'affection qu'il éveillera le souvenir ému d'une route qui n'a pas toujours été simple, dont les larmes séchées sont les vestiges, et aussi les signes d'une joie triomphante à la fin. Gardons confiance que, même si le chemin s'embrouille, même si l'attente est longue, c'est ce Dieu humain qui rouvre nos yeux, rallume nos lampes, ranime notre souffle. Dans l'épreuve, dans la joie, nous sommes connus de lui dès maintenant. Les temps se finissent quand nous nous laissons connaître par celui qui nous connaît dès avant le commencement du temps. Le banquet de la noce a toujours déjà commencé. Les échos de la fête résonnent à chaque instant et elle n'aura jamais de fin. Sortons. Amen. Thank you.